Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous allons un petit peu parler des technologies qu'il y a dans les véhicules. On va parler un petit peu de la mobilité écologique aussi, avec notamment cet avion à hydrogène. C'est l'un des sommaires que nous allons voir dans cette émission, l'un des articles que nous allons développer dans cette revue de presse de l'actualité scientifique. Biotine, c'est sur l'antenne de Graphite tous les samedis à 12h et pour la rediffusion le mardi à 10h sur la bande FM 94.9 et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur internet en direct ou en différé. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, alors n'hésitez pas. Nous sommes le 18 février, pas mal de choses au niveau de l'éphéméride de ce 18 février. En 1911, l'aviateur français Henri Péquet transporte le tout premier courrier postal par avion en 1911. Bon, maintenant, il n'y a plus de courrier, mais voilà, 1911, c'était ça. En 1930, l'astronome américain Clyde William Tombaugh découvre la planète Pluton. Alors, on apprendra plus tard qu'on ce sera plus une planète, mais en tout cas, Pluton était découvert le 18 février 1930. 1986, la première greffe d'un cœur artificiel, c'était à l'hôpital Broussais à Paris. Et enfin, il y a 2 ans, la mission spatiale de la NASA, mars 2020, qui comprend l'astromobile Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity. Eh bien, cette mission se pose avec succès sur Mars, dans le cratère J0. On en avait parlé, bien sûr, dans cette émission. Il y a déjà 2 ans qu'on avait évoqué cela. Ça passe, bien sûr. Naissance, le 18 février 1745. Du comte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Ah, Volta, ça nous dit quelque chose, oui, bien sûr. C'est un physicien et un chimiste italien connu pour ses travaux sur l'électricité et pour l'invention de la première pile électrique qui était appelée la pile voltaïque. Son nom, bien sûr, c'est à l'origine du volt, l'unité de tension électrique. Volta est donc né un 18 février à Côme, 1745. Décès le 18 février 1535, on est dans le 16e siècle, il y a très longtemps, de Henri Corneille Agrippa de Mortelsheim, Cornelius Agrippa, considéré comme un savant ésotériste qui était représentatif d'une conception sceptique de la magie. Il appelait la magie naturelle. En fait, Agrippa a au moins 4 facettes qui ne sont pas forcément conciliables, celle d'un féministe. Nous sommes au XVIe siècle, hein. Celle d'un mage, celle d'un alchimiste et celle d'un sceptique, sans parler aussi de ses fonctions de médecin, d'historiographe, de conseiller, de ses activités aussi de milicien, d'astrologue, de pédagogue. C'était un peu à l'époque où on faisait tout. On a connu ce genre de personnage qui touche un petit peu à tout. Nous sommes au XVIe siècle. Il était notamment... Il avait écrit un livre qui s'appelait « De la noblesse et pré-excellence du sexe féminin ». Je vous dirais qu'il était féministe. Nous sommes en 1509. Il rappelle, Agrippa, que Ève est née au paradis et que la femme joue un grand rôle dans la génération. Il fait l'éloge des femmes de la Bible. Marie est meilleure que le meilleur des hommes et la pire des femmes l'emporte sur Judas. Il s'attaque à l'image mortifère du sang menstruel, considérant son temps comme un poison, pour en montrer en contraire les bienfaits. Nous sommes au XVIe siècle, c'est totalement innovant, voire un petit peu surprenant, on va dire, à cette époque. Et donc, Cornelius Agrippa, qui est décédé le 18 février 1535. Voilà pour l'éphéméride. Comme je vous l'ai dit, on va parler pas mal de véhicules, entre autres, parce qu'il y a des technologies assez intéressantes qui ont été présentées, notamment ce véhicule qui propose une climatisation intelligente, parce qu'on est quand même maintenant dans des voitures de plus en plus connectées et intelligentes. Et la climatisation fait aussi sa révolution. Les constructeurs travaillent aujourd'hui sur des systèmes innovants avec la possibilité de pouvoir s'adapter automatiquement à l'ensoleillement ou même de pouvoir déclencher la climatisation dès que le conducteur approche de son véhicule. C'est Volkswagen, en fait, qui s'affiche à la pointe de ces nouvelles technologies et qui vont pouvoir inaugurer la future berline électrique qui s'appelle l'ID7. Ou ID7, je ne sais même pas si on le dit en anglais ou en français, on va le dire en français, ID7 de Volkswagen, qui sera commercialisé dès cette année. Alors, première innovation, la climatisation se déclenchera avant même que le conducteur et ses passagers entrent dans l'habitacle. En effet, dès que la clé du véhicule est détectée à proximité, eh bien, le système se mettra en route pour réchauffer ou refroidir l'intérieur de la voiture selon les conditions. Puis ensuite, à tout moment, il sera possible de choisir entre une climatisation globale, c'est-à-dire de l'ensemble de l'habitacle, ou une ventilation individuelle ciblée sur certaines parties du corps. Mais la principale innovation de cette climatisation, un peu de nouvelle génération, est qu'elle tiendra directement compte du niveau d'ensoleillement. C'est un capteur qui est placé près du pare-brise qui va détecter l'angle des rayons du soleil. Ça signifie que s'il y a un côté de la voiture qui est plus chauffé que l'autre, eh bien le système de climatisation va s'adapter en conséquence et en temps réel et va pouvoir modifier la ventilation des différentes zones concernées. Alors, ça a été présenté lors du dernier Congrès international de l'électronique à Las Vegas début janvier. On en parle toujours là de ce CES à Las Vegas. Eh bien, cette nouvelle Volkswagen ID.7 doit être dévoilée au printemps avant d'être commercialisé dans la foulée, parce que les premières livraisons en Europe et en Chine sont prévues d'ici la fin de cette année 2023. Donc on aura notre Volkswagen avec cette climatisation totalement inédite à voir. Donc c'est assez surprenant, bien sûr. Biotine, un peu de science et aussi un peu de musique. On écoute Space Galvatures. C'est doux, ça fait du bien, c'était Fractal Coconut. du groupe Space Galvatures sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On parlait des véhicules, on va continuer, notamment avec Tesla. Alors, il faut dire qu'il y a 3 ans, lors de sa présentation, c'était en novembre 2019, le Cybertruck de Tesla avait marqué les esprits, notamment par ses lignes très simplistes. Mais la présentation ne s'était pas déroulée comme prévu parce qu'il y avait des vitres blindées qui étaient jugées incassables, qui s'appelait Armor Glass. Et en fait, elle n'avait pas résisté au choc d'une balle en métal, ce qui provoquait un petit peu un moment de gêne pendant cette présentation en novembre 2019. Il n'empêche que depuis, Tesla continue de travailler sur ce point et vient d'obtenir un brevet aux États-Unis sur un nouveau procédé de fabrication d'un pare-brise pour ce pick-up électrique. Après sa validation en Europe le mois dernier, alors le document qui présente ce brevet décrit un procédé pour créer des structures de verre automobile présentant des courbes et des lignes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on est sur un pare-brise avec des formes et pas uniquement un pare-brise plat ou légèrement incurvé comme on peut le connaître jusqu'à maintenant. Tesla compte utiliser un laser pour chauffer le verre avant de le plier afin de créer une courbure avec un rayon compris entre 2 mm et 5 cm, donc c'est quand même assez important. Le brevet indique que les méthodes actuelles ne permettent pas de produire du verre en tout cas avec un rayon de courbure aussi intéressant et aussi important pour l'usage sur des voitures. Et donc Tesla précise que la méthode peut être utilisée avec du verre en une seule couche ou avec des couches multiples séparées par un polymère. Alors cette méthode n'est d'ailleurs pas limitée au pare-brise. Le brevet spécifie également qu'elle peut être utilisée pour les vitres latérales ainsi que pour le tableau de bord aussi et également aux différents instruments qui peuvent être présents sur le véhicule. Alors, on en sait un peu plus sur les livraisons des premiers Cybertrucks. Ça devrait arriver avant la fin de cette année également. Donc, décidément, en fin 2023, on aura Volkswagen avec sa nouvelle clim et Tesla avec son Cybertruck et son pare-brise totalement nouveau. 3 ans donc après le lancement, c'est assez... de délai assez court finalement pour pouvoir développer des technologies assez intéressantes. Mais voilà, au niveau de l'automobile, on voit de plus en plus des choses au niveau de la technologie de plus en plus inédites, intéressantes, performantes et optimisées. Donc on suivra ça bien évidemment. Puis si vous avez envie de les acheter, eh bien faites-nous en part. Comme ça, on verra un petit peu comment ça se passe et comment on peut utiliser sur la durée ce genre de nouvelles technologies. On va partir dans l'air cette fois avec les avions et notamment l'avion à hydrogène de ZeroAvia qui refait parler de lui en affichant un record historique, celui du tout premier vol du plus grand avion de ligne doté d'une motorisation à l'hydrogène d'une capacité de 19 passagers. Et bien, cet avion a pu réaliser un tour de piste de 6 minutes hors roulage. Le vol a eu lieu il y a quelques semaines, c'était courant janvier. Depuis les installations de ZeroAvia, c'est sur l'aéroport de Cotswold. Nous sommes au Royaume-Uni. Alors, sous son aile gauche, il y a le prototype du moteur électrique à hydrogène de ZeroAvia de 600 kW. C'est le plus gros moteur du constructeur ayant jamais été testé en vol. Et sous l'aile droite, par sécurité, se place le moteur d'origine, un moteur qu'on a mis en place également pour avoir l'ancienne et la nouvelle technologie, entre guillemets, sous les deux ailes. Alors le moteur à hydrogène est alimenté par 2 piles à combustible, des batteries lithium-ion qui garantissent la pleine puissance pour le décollage et servent également en redondance en cas de défaillance. L'ensemble de l'alimentation se trouve à l'intérieur de l'habitacle et dans la version définitive, eh bien, ce groupe va se trouver à l'extérieur de la carlingue. Le premier vol réel intervient dans le cadre d'un projet qui s'appelle iFlyer 2. L'objectif, en fait, consiste à développer une motorisation à hydrogène pour propulser les avions pouvant contenir jusqu'à 19 passagers. Et avec cette étape importante, eh bien, une demande de certification pourrait être envisagé dès cette année. Donc c'est quand même là aussi quelque chose d'assez important que cette année 2023 dans ce domaine-là. Il faut dire que ce vol s'est déroulé avec l'accord de l'organisme de réglementation britannique dont les exigences allaient bien au-delà de celles des essais en vols habituels. Et donc, ça donne une bonne marge d'évolution pour justement le motoriste, au point que la société Zero Avia envisage une certification commerciale à l'horizon 2025. 2025, c'est dans 2 ans, c'est demain, c'est quand même... On aura des avions hydrogène dans 2 ans. Dans l'avenir, Zero Avia compte également concevoir des moteurs de 2 à 5 mégawatts. L'idée, c'est de pouvoir propulser des avions de ligne de 90 places sur un rayon d'action de plus de 1100 km. Donc, c'est quand même totalement fascinant. Et pour arriver justement à cet objectif, l'entreprise est soutenue par des industriels du secteur et des compagnies aériennes, notamment United Airlines, étant donné que nous sommes au Royaume-Uni. Mais... voilà, on est quand même sur des moteurs électriques à hydrogène pour les avions. Donc, on est maintenant sur des échéances qui sont totalement atteignables. Et c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir suivre ça. Et dans quelques années, on sera sûrement à bord d'un avion qui aura un moteur à hydrogène. Et voilà, on est sur une évolution aussi de la technologie d'un point de vue de la mobilité, totalement fascinant bien sûr. C'est ça Bioteens, c'est-à-dire toutes les semaines on apprend des choses et on voit très bien comment se dessine notre avenir proche. Get the blessing sur l'antenne de Graphite. Standing, c'était Get the Blessing sur l'antenne de Graphite. Comme nous parlons un petit peu d'énergie avec ce moteur à hydrogène, on va parler aussi de l'énergie photovoltaïque des panneaux solaires. En clair, il y a des chercheurs allemands qui ont créé un revêtement qui favorise le nettoyage des panneaux solaires de manière totalement autonome. Et ça, c'est aussi totalement intéressant et inédit. L'avantage, c'est d'éliminer toute saleté des modules solaires qui nuisent à leur rendement. Alors, c'est l'Institut Fraunhofer en Allemagne qui a mis au point une technique permettant de rendre les façades en verre, mais également les panneaux solaires solaire auto-nettoyant. Cette nouvelle technologie repose en fait sur un phénomène d'hydrophilie des matériaux, c'est-à-dire leur capacité à retenir ou absorber de l'eau. Et pour cela, les chercheurs ont décidé d'appliquer de l'oxyde de titane cristallin sur du verre ultra fin. Et en fait, les propriétés de ce dioxyde de titane font qu'il change son hydrophilie selon qu'il est exposé ou non à la lumière du soleil. En clair, en pleine journée, il va humidifier toute la surface, ce qui va empêcher les saletés de s'installer. Et la nuit, eh bien, il va produire des gouttes d'eau qui vont permettre d'éliminer tous les corps étrangers. Alors concrètement, ça signifie que sur ce type de revêtement, il n'y aurait quasiment aucune saleté qui ne peut se déposer longuement. Et selon les chercheurs impliqués dans ce projet, cette solution élimine aussi toutes les traces de bactéries sur ces surfaces. Alors il y a un premier rouleau de verre qui mesure 20 mètres de long qui a été produit. Alors le défi, c'est maintenant de le rendre suffisamment solide pour qu'il puisse durer longtemps, bien sûr, et qu'on puisse avoir une certaine rentabilité, bien sûr, dans ce domaine-là, sachant que le but, c'est de pouvoir appliquer ce matériau sur des modules de panneaux solaires et aussi sur des surfaces qui peuvent être courbes. Et donc, du coup, on va pouvoir tester cela. L'intérêt, c'est que du coup, on aurait, et on le voit très bien, le photovoltaïque séduit de plus en plus de monde. Et bien, avec ce genre d'innovation, on pourrait participer un petit peu plus à sa démocratisation, parce qu'on en est encore qu'au stade expérimental, mais ça peut être intéressant, parce que l'une des difficultés des panneaux solaires, c'est justement qu'ils se salissent assez rapidement. Et s'ils sont, s'il y a de la poussière dessus, quelque part, ils vont être moins efficaces car ils vont moins capter l'énergie du soleil. Si on a un système qui permet de faire en sorte que le panneau solaire soit quasiment toujours propre, là bien sûr le rendement est beaucoup plus important. Donc on va tester cela pour avoir des panneaux solaires qui puissent s'auto-nettoyer de façon autonome, justement c'est tout l'intérêt, et voir les performances qu'on pourrait avoir justement dans ce domaine-là. On a vraiment sur des technologies maintenant qui permettent de pouvoir essayer de développer ces énergies renouvelables d'une façon, on va dire, efficace, parce que pour l'instant, on a quand même pas mal de contraintes, notamment avec les panneaux solaires. Il y a eu un article, c'était pas la semaine dernière, ça devait être une dizaine de jours, je crois, début février, concernant des classements de villes françaises à partir des données qu'on a pu obtenir de la part de Météo France. Alors, on va commencer par les classements des villes les plus froides de France. Eh bien, le classement de ces villes de plus de 5000 habitants, hein, dit-on. Le premier au classement, c'est Langres, dans la Haute-Marne. Hein, il faut avoir une bonne réserve de puits et de chaussettes. La commune arrive en fait en tête des villes de plus de 5000 habitants les plus froides de France métropolitaine. Langres, c'est même la seule ville de toute l'Hexagone à ne pas dépasser les 10 degrés de température moyenne annuelle. 9,8 à Langres, c'est ce qu'on enregistre en température moyenne toute l'année. Le mois le plus froid, c'est celui de janvier, bien sûr. Le plus chaud, c'est celui de juillet. Mais finalement, on se rend compte que c'est un climat rigoureux du fait que l'altitude de cette ville, relativement élevée, à plus de 450 mètres d'altitude, fait que cette ville, Langres, est au palmarès des villes les plus froides de France. Alors, guère mieux lotis que Langres, il y a Nancy, Épinal et Charleville-Mézières qui enregistrent 10 degrés de température moyenne sur l'année seulement. Ces villes jouissent d'un climat continental, on est quand même dans le Grand Est, qui est un climat propice aux forts écarts de température entre l'été et l'hiver, mais la chaleur estivale ne parvient pas à compenser le froid hivernal. À Langres, le record de froid date de 1956. Il faisait moins 21,2 degrés mesuré ce jour-là. C'est loin d'être le record absolu, parce que le record absolu date de 1968. C'était une petite commune du Doubs qui était située à 930 mètres d'altitude, qui s'appelle Mout, et le thermomètre était descendu à moins 36 degrés en 1968. Je ne me rends même pas compte ce que ça peut faire, moins 36 degrés, ça doit être quand même assez pénible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait moins 36 degrés et le matin, on enregistrait ça à la fin de la nuit. Et le jour même, toujours en 1968, l'après-midi, la température allait remonter à plus 1 degré. C'est-à-dire qu'entre le matin et l'après-midi, il y a eu une amplitude de 38 degrés. Ça doit faire un drôle d'effet quand même, ça. C'était en 1968. Cinquième Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. Et comme nous sommes en Picardie, je note la ville de Beauvais, qui fait partie de la 10e ville la plus froide de France, avec une moyenne de 10,7 degrés. Et effectivement, c'est un peu juste, c'est quand même un peu juste, bien sûr. Deuxième classement avec les données de Météo France, c'est le top 20 des villes où il pleut le plus. Et en fait, on pense tout de suite à la Bretagne, dans l'esprit de beaucoup, synonyme de froid et de mauvais temps. Alors, il pleut souvent, mais en quantité totale, cela n'est pas si important. À Rennes, on enregistre par exemple 694 mm de pluie par an, à peine plus qu'à Montpellier, parce que les pluies bretonnes s'apparentent davantage à un crachin plus qu'à des pluies diluviennes. Mais au total, l'impression qui reste est plutôt celle du nombre de journées pluvieuses. Et là, la Bretagne est quand même moins lotie. 159 jours de pluie à Brest contre 53 à Marseille. Il n'empêche que, en termes de pluviométrie totale annuelle, c'est Biarritz qui arrive en tête des villes les plus pluvieuses. L'océan amène en effet, bien sûr, beaucoup d'humidité, mais contrairement à la Bretagne, les nuages vont buter sur la chaîne des Pyrénées et vont déverser leur eau sur le Pays Basque. Il y a la ville de Besançon dans le Doubs qui est elle aussi très arrosée tout au long de l'année. Les différences de pluviométrie peuvent aussi s'expliquer par les vents, notamment l'effet de feune. C'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent un relief, eh bien, le vent en provenance du sud provoque de fortes précipitations sur le versant qui est exposé, tandis que l'autre versant, lui, bénéficie d'un temps chaud et sec. Et c'est ce qui explique notamment que Clermont-Ferrand ou Colmar font partie des villes les moins pluvieuses de France. Alors, ce classement de Météo France ne tient pas compte des départements et des territoires d'outre-mer, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas Biarritz qui aurait la palme, mais ce serait Saint-Benoît à La Réunion, avec une hauteur de pluie moyenne de 3500 mm par an et 196 jours de pluie sur l'année. C'est énorme quand même, 196 jours de pluie par an. Donc, premier Biarritz, deuxième Brest, troisième Besançon. Et là, je n'ai pas trouvé dans le top 20 des villes de la Picardie. Le plus proche serait peut-être Lille, dans les Hauts-de-France. 20e ville la plus pluvieuse de France, avec 127 jours de pluie par an. Ça, voilà, c'est des petits classements qui donnent une réalité par rapport des fois à, comment dire, des croyances qui ne sont pas toujours justifiées, bien sûr.
Thank you.
How We Do, c'était Another Things sur l'antenne de Graphite. On parlait de voiture, après on parlait d'avion. On va aller dans l'espace, hein, l'espace et le spatial des années 2020. C'est un petit peu le spatial où l'on déploie près de 2500 satellites par an, contre 200 il y a à peine 10 ans. Alors c'est déconcertant, mais il va falloir pouvoir gérer tout ça. Et les industriels et les opérateurs de satellites se diversifient. Ils ont de plus en plus recours à un nouveau service, la logistique en orbite. C'est ce que propose Exotrail. Son PDG Jean-Luc Maria a d'ailleurs précisé dans un communiqué, la logistique spatiale arrive et Exotrail sera votre partenaire privilégié. Alors cette start-up est basée à Massy, hein, c'est dans la banlieue de Paris à Toulouse, et compte actuellement près de 90 personnes. Alors Exotrail conçoit des systèmes de propulsion électrique, mais aussi des logiciels qui servent à concevoir une mission spatiale ou à opérer une constellation satellite. Alors aujourd'hui, la start-up propose aussi des systèmes pour déployer votre petit satellite et notamment ce qu'on appelle le CubeSat, c'est-à-dire un petit satellite où l'unité de volume, c'est un cube de 10 cm de côté. Et ils ont récolté des fonds privés et publics, 54 millions d'euros, qui vont permettre à la start-up de pouvoir avoir des fonds assez conséquents. Avec ce qu'ils avaient obtenu avant, ils en sont à 70 millions. C'est un record dans le milieu des nouveaux entrants dans le spatial français. Et ce, en dépit de la crise économique actuelle. Il y a toujours de l'argent quand on veut pour la technologie spatiale. C'est un très bon signe pour le développement du spatial en France avec ces nouveaux acteurs qui vont pouvoir aussi apporter des emplois en plus. Alors, Exotrail compte s'étendre aux États-Unis sur le marché asiatique. Et donc l'idée, voilà, on est sur des livraisons dans l'espace. On pourra justement pouvoir essayer de faire des livraisons avec des satellites et de pouvoir booster l'activité de la logistique spatiale. C'est un van spatial qui va transporter des satellites, des petits, des micros, des nanosatellites pour les livrer en orbite. Alors le van est d'abord mis en orbite par une fusée, puis il complète le travail dans les semaines qui suivent pour une mise en orbite plus précise. Alors ça épargne des manœuvres qui vont coûter en carburant. Et tout ça, ça va permettre au satellite de le faire lui-même. C'est un service aujourd'hui très tendance qui est déjà proposé aux États-Unis et en Italie. Et le premier vol de ce van spatial qui s'appelle Space Van, comme ça au moins on ne s'est pas foulé au niveau du nom, ce premier vol est prévu à la fin de l'année 2023. Décidément, à la fin de l'année 2023, il y a plein de choses à veiller. Exotrail a d'ailleurs signé un contrat de mission avec le CNES, hein, c'est le Centre National des Études Spatiales, pour deux missions de démonstration l'année prochaine, 2024, où le Space Van pourrait être également utilisé pour pouvoir désorbiter, c'est-à-dire enlever d'orbite des débris spatiaux, parce que bien sûr, il y en a tellement là-haut qu'il va falloir à un moment nettoyer également. Et ça, ça peut être aussi quelque part un commerce du futur assez important. Autre chose, au niveau médecine, et on parlait la semaine dernière de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a une intelligence artificielle qui s'est révélée plus efficace que les radiologues pour identifier des nodules pulmonaires caractéristiques du cancer du poumon. Cette aide pourrait contribuer à identifier plus efficacement et plus tôt les maladies thoraciques. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer avec précision les cancers n'en est qu'à ses débuts. Dans le cadre du cancer du poumon, les radiologues tentent de repérer sur les radiographies des nodules pulmonaires, une des principales caractéristiques de ce type de cancer, c'est-à-dire des espèces d'excroissances anormales qui se forment sur les poumons, en général à la suite d'infections pulmonaires antérieures. Alors, souvent confrontés à un nombre élevé de cas dans leur pratique clinique, eh bien, les radiologues pourraient trouver de l'aide avec les systèmes de détection assistée par ordinateur. Il y a divers systèmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle qui ont été signalés comme améliorant considérablement la performance des radiologues en tant que second lecteur. C'est ce qu'écrit les auteurs d'une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Radiology, c'est le journal de la Société de radiologie nord-américaine. Et en fait, l'intelligence artificielle améliore-t-elle le taux de détection de ces fameux nodules sur des radiographies pulmonaires? Eh bien, apparemment oui. Hein, la réponse se trouve dans les essais qui ont été mis en place et portés sur plus de 10 000 participants. Donc, on est sur un panel assez important. Les patients ont subi une radiographie pulmonaire et ils ont rempli un questionnaire renseignant l'âge, le sexe, le fait s'ils fument beaucoup ou pas du tout et les antécédents de cancer du poumon. 11% des patients étaient des fumeurs ou des anciens fumeurs. Les chercheurs notent qu'aucune des caractéristiques mentionnées n'a eu d'impact sur l'efficacité de l'intelligence artificielle. Cela suggère que cette intelligence artificielle peut fonctionner de manière cohérente dans différentes populations, même pour celles dont les poumons sont malades ou post-opératoires, c'est ce qu'écrivent les auteurs. Alors, les participants à l'étude ont été divisés en deux groupes de taille égale. L'un dont les radiographies ont été analysées uniquement par les radiologues. Et puis, on a fait un autre groupe où cette fois on a utilisé l'assistance de l'intelligence artificielle et eh bien on s'est rendu compte justement que on a des taux beaucoup plus efficaces, enfin plus importants, et donc on peut illustrer l'efficacité de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de dépistage radiographique. L'analyse ayant montré que le taux de détection de ces fameux nodules pulmonaires était beaucoup plus important avec l'aide de l'intelligence artificielle. Notre étude a fourni des preuves solides que l'intelligence artificielle pourrait vraiment aider à interpréter les radiographies pulmonaires. Cela contribuera à identifier plus efficacement et plus tôt les maladies thoraciques, en particulier le cancer du poumon. C'est ce qu'explique donc l'auteur de cette étude, Jin Mong-gu, du département de radiologie de l'hôpital universitaire de Séoul en Corée. Donc voilà, plus forte que les médecins, l'intelligence artificielle pour diagnostiquer le cancer du poumon. On est cette fois sur une utilisation à bon escient de l'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est totalement intéressant et très utile bien sûr. On continue à feuilleter l'actualité scientifique et puis aussi à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite.
Soviet Supreme Party. Soviet Supreme Party. Party pour la Soviet Supreme Party. Au dance club du Red Army, le one step, two step. High-tech, dubstep, en coco-discothèque. Warm up, teaching John Lennon. Qui passe une polka Pushkin et Ragararas, Poutine, Silverstone, Staline, Swing.
LA dit crame le dance floor, kiffe le Kremlin, c'est open door. Viens faire la coupole sur la place rouge, fais le plein de neige et réchauffe ton corps. Mama Zurka, sur Pavlova, boîte à vodka, dans la Volga. Babushka, classe à vite, sa chérie d'Avaï.
Cette musique m'emmène droit au club Bolshoï. Black Russian, White Russian, tout le monde,
boy, boy, boy.
Ce soir c'est soirée Moussorski et le ballet danse toute la nuit. Stravinsky lève son whisky et commence un Fox Trotsky.
Ah, viens là ma petite tsarine, sous toi la glace illumine. Tourne comme sur le lac des signes, Makamaya Kakarin. Sur Karioka Khrouchtchev, tu fais fondre l'URSS. Bouge ton pop-pop-potemkin, davai sublime.
Soviet Supreme Party.
Soviet Supreme Party. Soviet Supreme Party. Soviet Supreme Party.
Ah, c'était pas mal, Soviet Supreme Party. C'était le groupe Soviet Supreme sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, bien évidemment, sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Biotine, tous les samedis, parle de l'actualité scientifique. On parlait de la détection du cancer du poumon avec l'intelligence artificielle. Toujours en médecine, on a encore d'autres détections de cancers qui sont également programmées. Une nouvelle méthode qui combine un test standard avec un test épigénétique qui détecte les conformations chromosomiques spécifiques, cette fois au cancer de la prostate, dans le sang des patients. Ce sont des chercheurs de l'Université d'Angleterre qui ont mis au point un nouveau test sanguin qui permet donc de détecter le cancer de la prostate avec une plus grande précision que les méthodes actuelles. Le test sanguin détecte les conformations chromosomiques spécifiques au cancer dans le sang. L'étude pilote sur à peu près 150 patients a visé à comparer un test sanguin de l'antigène spécifique de la prostate standard avec ce nouveau test, c'est-à-dire où il y a un test standard et il y a un test épigénétique qui est mis en place, et les résultats montrent que le nouveau test qui combine donc les deux technologies, permet une augmentation significative de la détection du cancer de la prostate parce qu'on est à une précision à hauteur de 94%. Ça pourrait améliorer donc le diagnostic du cancer de la prostate en cas de réussite dans d'autres essais, parce que là, on est quand même au début de l'expérimentation, bien sûr, mais en tout cas, c'est assez prometteur. Alors actuellement, le test de base, le test de sanguin de l'antigène spécifique de la prostate, ce test est largement utilisé, mais il n'est pas suffisamment précis pour détecter ce type de cancer, ce qui entraîne de nombreuses biopsies inutiles de la prostate pour des hommes qui présentent une maladie bénigne. Seul environ un quart des personnes qui subissent une biopsie de la prostate en raison d'un taux élevé obtenu par ce test sont atteintes d'un cancer de la prostate. Et donc, du coup, lorsqu'il est testé dans le contexte du dépistage d'une population à risque, eh bien, le fait de pouvoir avoir ce nouveau test sanguin qui va se baser sur cette fois le côté génétique de l'affaire, eh bien, ça permet un diagnostic rapide et peu invasif du cancer de la prostate avec des performances totalement impressionnantes, et ça suggère un réel avantage à des fins de diagnostic et de dépistage. Donc on est vraiment sur un test de dépistage du cancer de la prostate assez prometteur. Prometteur aujourd'hui, donc il va falloir un petit peu approfondir les recherches et essayer de voir si les résultats, les bons résultats qu'on a obtenus se confirment, bien évidemment. Mais voilà, on est sur des choses vraiment intéressantes au niveau du cancer de la prostate avec ce nouveau test. Et cette fois, on n'utilise pas pour l'instant l'intelligence artificielle. Au niveau médecine, là encore, faire du sport, c'est bon pour la santé. Et c'est pas nouveau. Et depuis quelques années, on sait aussi que l'activité physique est efficace dans le cadre de la prévention, voire du traitement de nombreuses pathologies, dont la dépression fait partie. Depuis 2019, il y a des médecins qui peuvent même en prescrire sur ordonnance. Il y a une récente étude qui est parue dans le British Journal of Sports Medicine qui confirme l'efficacité de l'activité physique sur les symptômes dépressifs. En fait, cette étude, c'est une analyse qui porte sur pas mal d'études, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui existent, et donc il y a eu un travail qui a été fait de recoupage d'informations, de synthèse. Des chercheurs australiens, allemands, belges, britanniques, suédois, brésiliens, chiliens ont collaboré tous ensemble afin de publier cette revue systématique, qui concerne l'efficacité de l'exercice physique sur les symptômes dépressifs. L'objectif de cet article, c'est d'estimer cette efficacité en rassemblant des études qui comparent l'activité physique à des groupes qu'on va pouvoir avoir comme groupe témoin, entre guillemets. Les recherches ont été effectuées sur diverses bases de données scientifiques et seuls les essais contrôlés incluaient des patients âgés de 18 ans au moins et qui souffraient de troubles dépressifs majeurs ou bien avec des symptômes dépressifs validés par des questionnaires qui ont été standardisés. Alors, il y a eu 41 études qui ont été intégrées dans cette analyse globale avec un échantillon de participants qui s'élevait à plus de 2200 personnes. L'efficacité de l'activité physique est colossale avec une diminution des symptômes allant de moins 11 à moins 118%, donc c'est assez important. Et plus parlant encore, on constate que l'efficacité du traitement sur une personne, pour constater l'efficacité du traitement sur une personne, il suffit d'en traiter deux, c'est-à-dire qu'il y a peu de traitements qui peuvent se targuer d'avoir un tel résultat. Du coup, lorsque l'on souffre de dépression, il n'est pas rare d'avoir une apathie prononcée et par conséquent de n'avoir rien envie de faire. Et en premier lieu, il convient d'être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, l'activité physique pourrait être mise en place par un coach en activité physique adaptée à la santé qui tâchera de maximiser l'investissement de la personne en jouant sur des facteurs de motivation comme le plaisir que procure l'activité, la proximité avec d'autres personnes, des exercices adaptés au niveau afin de pouvoir maximiser les sensations de compétence et de progression. Mais voilà, on est sur une récente analyse globale qui confirme l'efficacité robuste de l'exercice physique sur les symptômes dépressifs. C'est pas souvent en fait qu'on avait ce genre d'études, et en tout cas là on a eu quelque chose qui va un petit peu synthétiser l'ensemble des informations qui ont été diffusées par différents canaux depuis certains temps. L'activité physique est bonne pour la santé et elle est bonne pour le moral, comme la musique également. Cool, pardon, j'avais pas appuyé sur le bouton cool, Colorado. C'était la femme sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine pour pouvoir parler de l'actualité scientifique. Il y a plein de petites brèves de Sciences et Avenir qu'on pourra notamment feuilleter ensemble la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. C'est 24 heures sur 24 et vous pouvez nous écouter également en récupérant les podcasts sur le site Internet. Toute l'actualité de Graphite, bien sûr, sur le site Internet et sur la page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve samedi prochain. À bientôt, au revoir.